Fascicule 189 La Résurrection. Peu après que Jésus eut été enseveli le vendredi après-midi, le chef des archanges de Nébadon, alors présent sur Urantia, convoqua son conseil préposé à la résurrection des créatures volatives endormies et se mit à étudier une technique possible pour ressusciter Jésus. Ses fils assemblés de l'univers local, créatures de Michael, agissaient sous leur propre responsabilité. Gabriel ne les avait pas réunis. Vers minuit, ils étaient parvenus à la conclusion que la créature ne pouvait rien faire pour faciliter la résurrection du Créateur. Ils étaient disposés à accepter l'avis de Gabriel, qui leur fit comprendre que puisque Jésus avait abandonné sa vie de son plein gré, il avait aussi le pouvoir de la reprendre de sa propre décision. Peu après l'ajournement de ce conseil des archanges, des porteurs de vie et de leurs divers associés, dans l'œuvre de réhabilitation de la créature et de la création au Mont-Ronciel, l'ajusteur personnalisé de Jésus prit la parole. Il commandait personnellement les légions célestes, alors assemblées sur Urantia, et s'adressa dans les termes suivants à ses veilleurs qui attendaient anxieusement. Nul d'entre vous ne peut rien faire pour aider votre Créateur Père à revenir à la vie. En tant que mortel du royaume, il a passé par l'expérience de la mort charnelle. En tant que souverain d'un univers, il vit toujours. Ce que vous observez est le transit mortel de Jésus de Nazareth, passant de la vie dans la chair à la vie dans la Mont-Ronciel. Le transit d'esprit de ce Jésus fut parachevé le jour où je me séparai de sa personnalité et devins votre directeur temporaire. Votre Créateur Père a choisi de faire l'expérience entière de ces créatures mortelles depuis la naissance sur les mondes matériels jusqu'au statut de l'existence véritable en tant qu'esprit, en passant par la mort naturelle et la résurrection de la Mont-Ronciel. Vous allez observer une certaine phase de cette expérience, mais il ne vous est pas permis d'y participer. Vous ne pouvez faire pour le Créateur ce que vous faites ordinairement pour les créatures. Un Fils Créateur possède en lui-même le pouvoir de s'effuser dans la similitude de n'importe lequel de ses fils créés. Il a en lui-même le pouvoir d'abandonner sa vie observable et de la reprendre de nouveau. Il dispose de ce pouvoir à cause du commandement direct du Père du Paradis, et je sais de quoi je parle. Après avoir entendu l'ajusteur personnalisé s'exprimer ainsi, ils prirent tous une attitude expectative anxieuse, depuis Gabriel jusqu'au plus humble chérubin. Ils voyaient le corps mortel de Jésus dans le tombeau. Ils décelaient des preuves de l'activité de leur bien-aimé souverain dans l'univers, et faute de comprendre ces phénomènes, ils attendaient patiemment la suite des événements. 1. Le transit Mont-Ronciel. Le dimanche matin à 2h45, la commission paradisiaque d'incarnation arriva sur les lieux. Elle se composait de 7 personnalités du paradis, non identifiées, qui se déployèrent immédiatement autour de la tombe. À 3h10, d'intenses vibrations d'activité mixte matérielle et mont-roncielle commencèrent à émaner du tombeau neuf de Joseph d'Arimathie. Et à 3h02, ce dimanche 9 avril de l'an 30, la forme et la personnalité mont-ronciel ressuscitée de Jésus de Nazareth sortirent du tombeau. Après que Jésus ressuscité eut émergé de son tombeau, le corps de chair, dans lequel il avait vécu et travaillé sur terre, durant près de 36 ans, gisait encore là dans la niche du sépulcre, intact et enveloppé dans le drap de lin, exactement tel qu'il y avait été couché le vendredi après-midi par Joseph et ses compagnons. La pierre fermant l'entrée du tombeau n'avait pas subi le moindre déplacement. Le sceau de Pilate était intact. Les soldats montaient toujours la garde. Les gardes du temple avaient veillé sans interruption. La garde romaine avait été changée à minuit. Aucun de ces veilleurs ne soupçonnait que l'objet de leur vigile s'était élevé à une forme d'existence nouvelle et supérieure, ni que le corps qu'ils gardaient n'était plus qu'une enveloppe extérieure abandonnée, désormais sans connexion avec la personnalité morontielle délivrée et ressuscitée de Jésus. L'humanité est lente à percevoir que dans tout ce qui est personnel, la matière est seulement le squelette de la morontia et que les deux sont l'ombre réfléchie de la réalité spirituelle durable. Combien de temps faudra-t-il pour que vous considériez le temps comme l'image mouvante de l'éternité et l'espace comme l'ombre fugitive des réalités du paradis? Autant que nous puissions en juger, nulle créature de cet univers, ni aucune personnalité d'un autre univers, ne joua le moindre rôle dans la résurrection morontielle de Jésus de Nazareth. Le vendredi, il abandonna sa vie en tant que mortel du royaume. Le dimanche matin, il la reprit en tant qu'être morontiel du système de Satania dans Orlatiadec. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas en ce qui concerne la résurrection de Jésus, mais nous savons qu'elle eut lieu comme nous l'avons dit et à peu près à l'heure indiquée. Nous pouvons aussi affirmer que tous les phénomènes connus associés à ce transit de mortel ou résurrection morontielle se produisirent là, dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie, où la dépouille mortelle matérielle de Jésus gisait enveloppée dans les linges mortuaires. Nous savons que nulle créature de l'univers local ne participa à ce réveil morontiel. Nous perçûmes les sept personnalités du paradis qui entouraient la tombe, mais nous ne les vîmes pas faire quoi que ce soit en liaison avec le réveil du Maître. Aussitôt que Jésus apparut à côté de Gabriel, juste au-dessus du tombeau, les sept personnalités du paradis signifièrent leur intention de partir immédiatement pour Uversa. Clarifions définitivement le concept de la résurrection de Jésus en faisant les déclarations suivantes. 1. Son corps matériel ou physique ne faisait pas partie de sa personnalité ressuscitée. Lorsque Jésus sortit du tombeau, son corps de chair resta intact dans le sépulcre. Le Maître émergea du tombeau sans déplacer les pierres qui embouchaient l'entrée et sans briser les sceaux de Pilate. 2. Il n'émergea du tombeau ni en tant qu'esprit, ni en tant que Michaël de Nébadon. Il n'apparut pas sous la forme du souverain Créateur, semblable à celle qu'il avait avant son incarnation, dans la similitude de la chair mortelle sur Urantia. 3. Il sortit du tombeau de Joseph, dans la similitude exacte des personnalités morontielles de ceux qui émergent, en tant qu'ascendeurs morontiels ressuscités, des salles de résurrection du premier monde des maisons du système local de Satania. La présence du monument commémoratif de Michaël, au centre de la vaste cour des salles de résurrection de Maisonia numéro 1, nous conduit à supposer que la résurrection du Maître sur Urantia fut agencée d'une certaine manière sur ce premier monde des maisons du système. Le premier acte de Jésus, en sortant du tombeau, fut de saluer Gabriel et de l'inviter à continuer d'assumer la responsabilité administrative des affaires de son univers, sous la supervision d'Emmanuel. Puis, il pria le chef des Melchisédek de transmettre ses salutations personnelles à Emmanuel. Ensuite, il demanda au Très-Haut d'Edensia la certification des anciens des jours concernant son transit de mortel. Puis il se tourna vers l'assemblée des groupes moronciels des sept mondes des maisons, réunis là pour saluer leur créateur et lui souhaiter la bienvenue en tant que créature de leur ordre. Jésus prononça les premières paroles de carrière post-mortelle. Le Jésus moronciel leur dit « Ayant terminé ma vie dans la chair, je voudrais m'arrêter ici un peu de temps dans ma forme de transition pour connaître plus complètement la vie de mes créatures ascendantes et poursuivre mes révélations de la volonté de mon Père qui est au paradis. » Après avoir ainsi parlé, Jésus fit un signe à l'ajusteur personnalisé et toutes les intelligences de l'univers qui s'étaient réunies sur Urantia pour être témoins de la résurrection furent immédiatement priées de rejoindre leurs postes respectifs dans l'univers. Jésus commença ensuite à établir les contacts sur le niveau moronciel et prit connaissance, en tant que créature, des exigences de la vie qu'il avait choisi de vivre durant cette brève période sur Urantia. Cette initiation au monde moronciel demanda plus d'une heure du temps terrestre et fut deux fois interrompue par le désir de Jésus de communiquer avec ses anciens associés charnels venus de Jérusalem pour scruter avec étonnement le tombeau vide et y découvrir ce qu'il considérait comme une preuve de sa résurrection. Le transit de Jésus en tant que mortel, la résurrection moroncielle du Fils de l'homme, est maintenant parachevée. L'expérience transitoire du Maître, en tant que personnalité médiane, entre le niveau matériel et le niveau spirituel, a commencé. Et il a accompli tout cela par un pouvoir inhérent à lui-même. Nulle personnalité ne lui apporta une aide quelconque. Il vit maintenant en tant que Jésus moronciel, et tandis qu'il commence cette vie moroncielle, son corps matériel de chair gît intact dans le tombeau. Les soldats montent toujours la garde, et le sceau du gouverneur sur les pierres n'a pas encore été brisé.